17h05, les Broncos de Swift Current ont les devants 2-1 sur le Titan d'Acadie Batters après une période de jeu. Premier match pour le Titan lors de cette 100e édition de la Coupe Memorial. Évidemment, on vous tiendra au courant de ce duel tout au long de l'émission. Demain, ouverture officielle du camp d'entraînement des Alouettes de Montréal. On en parle avec Bruno Eppel qui est avec nous. Salut Bruno!
Salut Jérémy!
Comment ça va?
Ça va bien. On a hâte de recommencer, là. Je peux te dire que depuis le Super Bowl, c'était assez tranquille côté football de mon côté. Mais pendant ce temps-là, je peux te dire que les Alouettes, eux autres, ont bougé et ont fait plein des changements. Puis on a tous hâte de voir demain la première pratique, puis voir comment ça va débuter et comment ça va finir par tourner cette histoire-là.
OK. Moi, j'ai une question pour toi, Bruno. Avant qu'on se parle là, des nouveaux effectifs, des nouveaux arrivés chez les Alouettes de Montréal, j'ai deux chiffres devant moi. 3-15. Ça, c'est la fiche des Alouettes l'an passé. Quand tu te pointes au camp d'entraînement avec cette fiche-là dans le dos de 3 victoires, 15 défaites, avec quelle attitude tu te pointes? Avec la tête entre les deux jambes? Avec le torse bombé? Comment tu te pointes au camp d'entraînement?
Non, honnêtement, tu peux pas te pointer avec la tête entre les deux jambes, ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut que tu passes à autre chose. Puis la chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que c'est une équipe pratiquement nouvelle. Là, lorsque tu regardes sur le terrain, ce qui va arriver, oui, il y a des vétérans qui reviennent, là. Tu sais, John Bowman, le bras d'ajout, ben, on va pas en parler. Il y a c'est des gars qui sont quand même âgés, mais on a fait peau neuve à plusieurs positions du côté des Alouettes. Puis, il y a des gars là-dedans, c'est des gars de caractère, là, qui arrivent de d'autres équipes. Je pense à Jabbar Westerman, par exemple, tu sais, qui est un leader né, un gars vocal, un gars qui va arriver dans cette défensive-là. Lui, il n'aura pas avec la tête entre les deux jambes. Lui, il arrive d'une très belle saison avec les Bombers. Puis moi, j'espère que ces gars-là, ces nouvelles signatures, vont amener cet esprit-là de gagnant qu'ils avaient dans leurs équipes respectives dans l'équipe des Alouettes et qu'on va les suivre. Parce que c'est un peu ça, là, tranquillement pas vite, qui s'est malheureusement installé dans les 3 dernières années. Il faut pas l'oublier. Les Alouettes n'ont pas fait les éliminatoires depuis 2014. Tranquillement pas vite, ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde dans cette équipe-là qui connaissent c'est quoi que ça prend pour aller en éliminatoire. Mm-hmm. Il y en a de moins en moins, en tout cas, ça c'est sûr. Et là, moi, je regarde les signatures en saison morte, puis la plupart des gars, ils arrivaient des Blue Bombers de Winnipeg, des Stampeders de Calgary, des Argonauts de Toronto, toutes des équipes qui ont eu d'excellentes saisons. Puis moi, ça, j'aime ça.
OK. 3 points qu'on doit surveiller. Honnêtement, des points qui ont été assez faibles, disons, du côté des Alouettes. 1, la ligne à l'attaque. T'en as parlé. On a été chercher Ryan Bomben, entre autres, en échangeant notre premier choix au total. Comment tu la vois, cette ligne à l'attaque, cette année chez les Alouettes?
Je la vois revampée, vraiment bien meilleure, en tout cas, qu'elle l'était avant le repêchage. Parce que, dans le fond, au repêchage, on a échangé pour aller chercher Bomben, qui était, dans le fond, notre premier choix. Et avec le deuxième choix au repêchage, on est allé chercher un dénommé Rutherford. Et moi, je l'ai vu en personne, le bonhomme, là. Je l'ai vu aussi sur les bandes vidéo, puis je peux te dire, c'est un gars qui est prêt à jouer maintenant et qui, à mon avis, va peut-être être sixième, mais moi, j'aurais peut-être pas. J'ai hâte de le voir au camp, là. Mais j'ai l'impression que c'est un gars qui va être sur le terrain très rapidement et comme un des 5 partants. Fait qu'on a passé d'avoir pas beaucoup de profondeur sur la ligne au niveau des joueurs canadiens à, avec Bomben et Rutherford, en avoir beaucoup. Et faut pas oublier que là, Luc Brodeur-Jourdain revient, mais il y a 36 ans, l'arrivée de Rutherford et de Bomben permettent à Christian Matt d'être une option maintenant viable au centre. Fait qu'il va falloir que Luc soit prêt à compétitionner, revienne de sa blessure et prouve, je pense, aux Alouettes qu'il est encore l'homme de la situation, parce que l'an passé, son jeu a baissé un peu. C'était jumelé à des blessures, mais là, faut pas oublier qu'à 36 ans, souvent, les meilleures journées sont derrière toi. Il s'est entraîné très fort. Je suis convaincu qu'il est prêt pour le camp, mais il va y avoir de la compétition.
Okay.
Ça, c'est pas la vérité avant toutes ces signatures-là que je viens de te nommer.
Parfait. Pendant que je te laisse répondre à ton téléphone cellulaire...
C'est mon alarme pour m'assurer qu'à 5h10, je sois prêt.
Mais okay. Tu vas devancer. OK, bon, ben parfait. T'es bien gentil, Bruno. T'es un gars à l'heure, ça, c'est clair. OK, donc on a dit le premier point, c'était la ligne à l'attaque. Le deuxième point, les quarts arrière. Écoute, là, t'es en position d'avoir Drew Willey, Josh Freeman et Matthew Shields. Comment tu vois ça?
Ça, c'est la question, vraiment. Et malheureusement, dans tous les beaux moves et les belles signatures qu'on a fait, la position de carrière reste encore une énigme pour les gens qui regardent ça de l'extérieur. T'sais, eux, j'imagine qu'ils ont des gars qu'ils aiment là-dedans, dans ces 4 bonhommes-là, mais vu de l'extérieur, mais pas personne dans ces quatre gars-là qui nous a prouvé rien à nous autres, là. Fait que t'as beau avoir amélioré ta ligne à l'attaque, t'as beau avoir revampé presque toute ta défensive, si ta carrière joue pas bien, tu le sais, dans les Canadiennes, ça fonctionne juste pas. Et là, je regarde ça, puis Freeman, ce qu'on dit de lui, c'est qu'il n'a pas été impressionnant au camp en Floride. Je m'inquiète un peu à son sujet. Ça fait deux ans qu'il n'a pas joué du vrai football. Moi, je ne gagerais pas sur lui. En ce moment, on nous parle de Matthew Shields. Et moi, je pense, là, et ceux qui vont aller demain, peut-être à la pratique, regardez ce gars-là. Moi, j'ai joué au golf, au tournoi de golf des Alouettes avec le gars. Il est très charismatique, hyper intelligent. C'est un jeune corps qui en arrive à sa deuxième année, mais qui s'est entraîné, qui a pris 15 livres dans la saison morte et qui a connu, lui, en Floride, de très bons moments. Et je me dis, on va donner la chance coureur. On parle du côté des Alouettes d'avoir un carrière de concession. Mais ça veut dire qu'il faut que tu donnes la chance à un jeune talentueux de jouer et il faut que tu vives avec ses erreurs. Et ça, c'est ce que j'espère, si on décide d'y aller avec Matthew Shields, qu'on va faire du côté des Alouettes. Il faut qu'on soit patient avec le jeune. Il va commettre des erreurs, mais si on pense qu'il a le talent, il faut lui donner le temps d'apprendre. Il ne faut pas oublier là, que des gars comme Bolivar Mitchell, Trevor Harris, avant qu'on les connaisse tous, sont arrivés dans la ligue puis ont été des quarts des deuxièmes années puis en faisaient des erreurs eux autres aussi. Puis aujourd'hui, c'est rendu des quarts de concession dans leurs équipes. Est-ce que c'est Matthew Shields? Je ne sais pas. Mais moi, j'aurais tendance à miser sur ce cheval-là dans les quatre noms qui sont devant nous. Là.
Hier, on a eu la chance de parler avec Nicolas Boulay des Alouettes, le secondaire. Et écoute, les noms qu'il a utilisés pour comparer Matthew Shields, il a parlé de Calvillo, puis il a parlé de Tom Brady. J'ai dit, écoute, sais-tu que c'est des gros noms, là? Il me dit, non, ce gars-là, il dit, évidemment, on est logique, là, tu sais, il faut pas le lancer dans la gueule du loup pour absolument rien, mais ce gars-là a des capacités et une personnalité pour faire en sorte de devenir un grand leader du côté des Alouettes.
Ouais, puis ça, je suis convaincu de ça pour l'avoir. J'ai eu la chance d'être 4 heures avec lui au golf. Tu sais, t'as le temps d'apprendre à connaître une personne. Et c'est clair que si lui, on lui donne la chance, puis on lui. Si on lui donne les rênes de l'équipe un peu, c'est le genre de gars qui, au niveau de la personnalité et du charisme, est un rassembleur. Ça, c'est officiel pour moi. Maintenant, il faut que ça suive en arrière. Il ne faut pas juste que tu parles, il faut aussi que tu livres la marchandise. Donc, il doit être à la hauteur au niveau sur le terrain aussi. Là. C'est bien beau d'être rassembleur et d'être leader, mais si tu lances 2 interceptions par match, il n'y a pas grand monde qui va vouloir te suivre.
Non, ça c'est clair. OK, donc, on a parlé de la ligne à l'attaque, on a parlé des quarts. Le troisième point, la défensive. Là, du côté de la défensive, on a fait, entre autres, Alan Michael Cash qui est revenu, lui, qui a déjà été avec les Alouettes. Mais c'est le coordonnateur en défensive qui a fait beaucoup jaser. Khalil Carter.
Non, on peut en parler. Ça,
C'est quoi cette histoire-là? Explique-moi. Lui, il arrive des Stampeders de Calgary. Puis à un moment donné, on se rend compte que c'est un drôle de moineau avec les joueurs. Puis finalement, il va être dépisteur. C'est ça l'histoire?
Ben, c'est ça l'histoire. Mais la réalité, c'est que c'est plate parce que ça montre et ça envoie des messages comme s'il y a de l'instabilité. T'sais. On a des problèmes de stabilité dans l'équipe depuis plusieurs années. Et là, 2 semaines avant le camp, on me dit que le coordinateur défensif veut passer plus de temps que sa famille. On sait tous que c'est pas vrai, là. Soyons honnêtes, à mon avis, faut voir ça. Il s'en serait rendu compte avant que le camp arrive, là, qu'il faut qu'il passe du temps avec sa famille. De toute façon, ceci étant dit, moi, ce que je vais te dire, c'est qu'il y avait des antécédents. Avec les Stampeders, il y avait une rumeur qui avait circulé qu'il y avait eu des altercations avec même un de ses joueurs et que c'est une des raisons pour laquelle les Stampeders ne l'avaient pas renouvelé comme entraîneur. Fait que, moi, je pense qu'on s'est juste rendu. On avait décidé peut-être de donner la chance au coureur, puis on a dû se rendre compte que la personnalité du gars ne fitait juste pas avec ce que Mike Sherman veut avoir comme entraîneur. Puis, il faut pas oublier qu'on s'était comme backé un peu du côté des Alouettes parce que le consultant en défensive, c'est Rich Tubler. C'est lui qui vient de devenir coordinateur défensif. Moi, tu me dis, je tasse Khalil Carter pour mettre Rich Tubler, je vais dire oui à tous les jours, puis 2 fois le dimanche. Parce que Rich Tubler, c'était l'un des meilleurs coordinateurs défensifs dans les Canadiens de football depuis plusieurs années. La seule chose avec lui, c'est un gars de 70 ans ou 69 ans. Mike Sherman, c'est un gars de 70 ans aussi. Fait que là, est-ce que les gars, on va les avoir longtemps? Ce serait faux de penser que oui, hein? C'est à 70 ans, tu peux dire 2 puis 3 ans, mais pas plus que ça, à mon avis. Mm-hmm. Ces gars-là vont peut-être retourner à la retraite. Fait qu'il faut falloir préparer des jeunes en arrière d'eux. Là.
OK, bien, je comprends. Ce que je comprends, c'est que hier, encore en conversation avec Nicolas Boulay, je lui en ai parlé de Carter, de Khalil Carter. Puis, ouais. Tu sais, il dit, on n'a pas eu de camp, nous autres, en Floride pour la défensive. Il dit, on a eu des conversations téléphoniques. je vois pas où ce qu'il a pu se pogner avec ses joueurs. C'est pas
non,
mal
non, mais
plus.
Je pense pas que ses joueurs,
c'est à l'interne, c'est avec les autres coachs que ça n'a pas passé.
Ouais, exact. C'est, moi, je pense que ça a plus rapport avec les réunions d'entraîneurs, puis peut-être que la vibe passait pas, puis on s'en est rendu compte, puis on a juste dit, regarde, on va passer un autre appel. De toute façon, tant qu'à moi, Kyle Carter, il n'y a absolument rien prouvé pour avoir cet emploi-là. Moi, j'étais d'ailleurs très content. C'est la seule emploi embauche que je contestais un peu lorsqu'on a annoncé le groupe d'entraîneurs, mais lorsque j'ai vu Rich Toubleu comme consultant, j'ai dit, OK, au moins, ils ont mis quelqu'un en haut du jeune pour le protéger, pour le jeter dans la gueule du loup, parce que moi, j'étais pas très confiant dans la qualité de coach que Kyle Carter était. Puis, pas le remettre en doute, là, mais j'avais comme entendu trop de mauvaises histoires à son sujet. Puis quand on a annoncé qu'il était parti, j'étais pas surpris.
OK. Départ annoncé, Nick Lewis. On l'a vu sur les réseaux sociaux qui a annoncé son départ des Alouettes. En fait, a demandé d'être libéré. Pourrait peut-être retourner, signer un contrat avec les Stampeders de Calgary. Question de prendre sa retraite avec les Stampeders. Ça va créer un gros trou dans le leadership des Alouettes, ça?
Ouais, c'est. Oui, parce que c'est un gros bonhomme. Ça fait un méchant trou quand Nick Lewis est plus là. Mais oui, c'est un gros trou, mais en même temps, autant qu'il a été bon l'an passé. Et moi, je le disais match après match, c'est pas normal que Nick Lewis, match après match, soit ton meilleur receveur de passe. Tu comprends?
Ah oui.
Il était rendu plus lent, il était rendu moins bon qu'il avait jamais été, puis il était, malgré tout, semaine après semaine, notre meilleur receveur. Ça en disait long sur le reste du groupe. Moi, c'est ce que je disais. Donc là, Nick Lewis s'en va, c'est clair que le leadership va être affecté, mais ça va peut-être aussi laisser plus de place à des plus jeunes qui vont, on va l'espérer pour les Alouettes et pour Matthew Schilt, en profiter pour avoir une bien meilleure saison que l'an passé, parce que tu sais, on parlait de faiblesse là, d'un bord puis de l'autre. Tant qu'à moi, le groupe de receveurs des Alouettes l'an passé, là, ils ont eu une saison misérable en tant que groupe. C'était l'enfer de voir échapper des ballons faciles, match après match. Je parle de Ernest Jackson.
J'allais dire, tu parles-tu d'Ernest Jackson?
Et Ernest, entre autres, même si Samuel Giguère n'a pas eu une grande saison, B.J. Cunningham, il a été bon à certains moments, mais il a encore trouvé le moyen d'échapper plusieurs ballons faciles. Non, c'était chacun son tour. Mais le groupe, en général, doit être meilleur cette année. C'est comme s'il y en avait toute une mauvaise en même temps.
Bon, mais Bruno, j'espère que toi, tu en auras une bonne demain, parce que tu seras là à l'ouverture du camp d'entraînement, puis tu vas serrer des pinces, prendre des photos.
Yes.
Es-tu prêt?
Oh, je vais être très prêt. On est prêt. J'ai bien hâte de voir ça. Steve Charbonneau aussi va être là. Fait que c'est toujours le fun, la première journée du camp. On voit un paquet de monde qu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois, puis ça va être le cas encore demain.
Donc, c'est un rendez-vous à tout le monde, et ça se passe, je vous le rappelle, là, entre le Stade Saputo et le Stade Olympique, il y a un terrain. C'est juste là que ça se passe. Bruno Hépel sera sur place, évidemment, avec Steve Charbonneau. Peter Delariva qui sera là également. Allez, prenez le temps d'aller lui serrer la pince. Vous allez voir, il ne mord pas, Bruno, et ça, c'est une excellente nouvelle. Bruno Hépel, merci d'avoir été avec nous.
Salut, Jérémy. Bonne journée.
Merci. On s'arrête quelques instants. Retour, on parle du duel entre Adonis Stevenson et Badouchak avec Sébastien Gauthier.